Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle assez récente. L'enquête autour de l'assassinat en février 2012 d'un chef d'entreprise de la région de Saint-Étienne, Philippe Gletti, que l'on retrouve un jour avec trois balles de 8 mm dans le buffet. C'est une de ces affaires auxquelles vous n'aurez pas de mal à vous identifier parce que elle frappe des gens tout à fait ordinaires, des gens qui nous ressemblent, des gens qui vous ressemblent. Avec évidemment derrière cette question, est-ce que ça peut m'arriver, à moi aussi, une telle histoire? Et par ailleurs, c'est une affaire qui met en scène une femme meurtrière qui s'appelle Bettina Beau. Et pour le débrief de ce récit tout à l'heure, j'ai invité son mari. Bonjour Philippe Beau.
Bonjour Monsieur Ondelat.
Et merci d'avoir accepté de nous raconter tout à l'heure comment cette histoire a fracassé votre vie et ce que c'est que de découvrir que votre femme, est capable de tuer. La voici cette histoire, je l'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette histoire, c'est un classique du genre. Un mari, une femme, une maîtresse, et au bout, un cadavre. Alors à la manière de Columbo, laissez-moi d'abord vous présenter la victime. Parce que dans cette affaire qui débute en février 2012 près de Saint-Étienne, la victime, c'est le mari. Philippe Gletti, patron d'une petite entreprise qui fabrique des fenêtres en alu et en PVC. Princeps Alu, 40 employés tout de même. Le matin du 27 février 2012, il va sur le chantier de la maison qu'il se fait construire. Ensuite, il passe à son bureau. Il en part à 11h. Et après, plus de nouvelles. Et la première à s'en inquiéter, c'est sa femme Stéphanie. Ils sont mariés depuis un an et demi, c'est tout frais, et donc ils s'envoient encore des mamours par SMS toute la journée. Le matin, jusqu'à 11h, ils lui envoient des bisous, des je t'aime, des gouzou-gouzou, comme d'habitude. Mais après 11h, 11h17 exactement, plus rien. Elle le relance. Philippe, ça va? Tu ne me réponds pas? Pas de retour. Et en plus, c'est lundi, et le lundi, Stéphanie, qui bosse dans une banque, ne travaille pas. Ils sont censés déjeuner ensemble. À 13h, la tambouille mitonne sur la cuisinière. Il n'est toujours pas là. Elle essaye de l'appeler, téléphone coupé. Elle mange donc toute seule. Et toute l'après-midi, elle attend. L'heure du dîner arrive, Philippe n'a donné aucune nouvelle. Et à 10h30 du soir, Stéphanie n'en peut plus, elle appelle la gendarmerie de Saint-Paul-en-Jarret.
Bonsoir, je suis l'épouse de Philippe Gletti. Voilà, je vous appelle parce que j'ai pas de nouvelles de mon mari depuis ce matin, 11h.
Écoutez, je vais procéder à une petite recherche. Je vais regarder les hôpitaux, les accidents et je vous rappelle.
Je vous remercie.
Le gendarme rappelle, rien. Philippe n'a pas été impliqué dans un accident, il n'est pas dans un hôpital du coin. Et honnêtement, ça la rassure, Stéphanie. Parce qu'à part ça, s'il n'a pas eu d'accident, elle craint de savoir où il est. Il est dans le lit d'une poulette, sans doute. Oh, elle le connaît. C'est un coureur de jupons, Philippe. Un insatiable coureur de jupons. Et elle le sait d'autant plus qu'avant de l'épouser, elle a été sa maîtresse. Donc, hypothèse, il est chez une maîtresse. Mais bon, il ne rentre pas de la nuit. Le lendemain, la matinée passe, l'après-midi passe, il n'est toujours pas là. À 5h30, Stéphanie rappelle les gendarmes.
Bonsoir, c'est Madame Gletti. Mon mari, il n'est toujours pas rentré. Je suis très inquiète.
Vous pourriez nous dire quelle est la marque de son véhicule et son immatriculation?
Mon mari, il a une Audi Q7, mais j'y pense. Je peux facilement la localiser. On a la géolocalisation, la voiture est équipée, c'est une voiture de société. Je vais regarder.
Le le système GPS localise le 4x4 Audi à la terrasse sur Dorlé, place des artisans boulangers. Alors elle rappelle les gendarmes, ils lui donnent rendez-vous sur place, avec un double des clés. Et Stéphanie prend la route de la terrasse sur Dorlé. Et elle sait très bien où c'est, elle n'a pas besoin de GPS. C'est là qu'en général, Philippe passe ses 5 à 7. Elle y est venue souvent, avec lui, avant le mariage. Et au passage, ça la conforte dans l'idée qu'il est avec une poulette. Arrivée sur place, la voiture est bien là, mais pas de Philippe. Les gendarmes font le tour du patelin, personne ne l'a vu. Madame Gletti, si sa voiture est là, c'est qu'il est parti avec quelqu'un. Une femme ? Stéphanie y pense tout de suite. Mais en même temps, ça n'est pas possible. Ils sont mariés depuis 18 mois. Il lui envoie des SMS toute la matinée pour lui dire « je t'aime » et après, il disparaît avec une femme. Elle n'arrive pas à le croire. Alors il y a l'hypothèse du suicide. Il y a un barrage pas loin, le barrage de Dorlé. Il y a déjà eu des suicides par là. Les gendarmes explorent les alentours. Rien. Stéphanie fait remarquer qu'il n'a pas pris ses médicaments, qu'il doit prendre tous les jours. Le lendemain, le procureur de Saint-Étienne ouvre une information pour disparition inquiétante. Et l'enquête des gendarmes commence naturellement à l'endroit où on a vu Philippe pour la dernière fois, c'est-à-dire à son bureau, chez Princeps Salut. Ses employés confirment. Ah ben oui, il est venu. Oui, il est arrivé vers 9h. Il est resté 2 heures environ au bureau et puis il est reparti vers 11h. Il avait l'air pressé. Il vous a dit où il avait rendez-vous ? Ah non, non, il nous a rien dit. Même sa plus proche collaboratrice, son assistante, ne sait pas avec qui il avait rendez-vous. Voyons ce que dit son agenda. À l'heure du rendez-vous, il est inscrit 6 lettres. B-E-B, P-T-G. Ça vous dit quelque chose, ça ? B-E-B, P-T-G ? Ah ben non. Un client, vous avez le fichier client, peut-être, on peut regarder ? Ça ne correspond à rien. Mystère. Après ça, les gendarmes se font remonter la fadette de Philippe Gletti, l'activité de son téléphone portable. Tiens, ça c'est intéressant. Son portable a été coupé presque toute la journée de lundi, le jour de sa disparition. Et il a été rallumé vers 18h50, pour rien. Pas de SMS envoyé, pas de coup de fil. Et juste après, on l'a à nouveau éteint. À part ça, comment est-ce que ça se passait avec le patron dans cette menuiserie industrielle ? Eh bien, pas trop mal, ma foi. Les employés l'aiment bien. Il payait son coût. Son entreprise, c'était sa famille. Bon, il faut quand même que je vous dise, il a couché avec une bonne partie des filles de la boîte. Elles le disent tout de suite aux gendarmes. La femme de ménage, par exemple, Myriam. 2-3 jours après que je suis entré dans l'entreprise, on a commencé à avoir des relations sexuelles avec Philippe. Mais quand ça n'a plus convenu, on a arrêté. Hein. Et depuis, je suis devenu sa meilleure amie et sa confidente. Je sais tout de sa vie sexuelle. Il se confirme que Philippe Gletti était ce qu'on appelle communément une bite à roulette. Et on en revient donc à la piste de la maîtresse. Le coup de folie, je plaque tout, je change de vie, je change de femme. Mais Stéphanie n'arrive toujours pas à y croire. Elle le dit aux gendarmes. Il aurait pas laissé son entreprise en plan. Princeps Salut, c'est toute sa vie. Et puis sa mère, Jeannine, il l'appelle 2 fois par jour, tous les jours. Elle n'a pas de nouvelles depuis 4 jours. Du coup, les gendarmes vont voir la mère. Et elle leur confirme qu'elle est inquiète et qu'effectivement, il ne l'a pas appelée. Et que ça ne lui ressemble pas. Mais elle leur dit aussi que ça bardait entre son fils et sa femme, Stéphanie. Ils étaient chez moi dimanche. Je peux vous dire que il y avait de l'eau dans le gaz, hein. Leur relation n'était pas au beau fixe, comme on dit. Ils se sont disputés. Et si vous voulez mon avis, ils étaient sur le point de se séparer, alors... Alors quoi ? Stéphanie Gletti a tué son mari. C'est une piste. Une dispute, elle le tue, et ensuite elle joue les veuves éplorées. Ça s'est déjà vu. Les gendarmes font donc remonter sa téléphonie. Et là, bizarre, dans la soirée de lundi, le soir de la disparition de Philippe, elle a changé la puce de son téléphone portable. Très bizarre, parce que le résultat, c'est qu'on n'a plus la trace des SMS qu'elle prétend avoir reçus de son mari jusqu'à 11h17. Le texte des SMS s'est envolé avec la vieille puce. C'est bien dommage. Pourquoi est-ce que vous avez changé la puce de votre portable, Madame Gletti? Hein? Oh, franchement, vous faites erreur. Si vous me suspectez à cause de ça, vous faites erreur, vous vous trompez. Elle a grillé. Je l'ai changé, c'est tout. Ça arrive. Madame Gletti, vous ne nous avez pas parlé de la dispute que vous avez eue avec votre mari chez votre belle-mère, dimanche.
Oh, mais c'est comme ça. On a deux caractères très forts. On se dispute souvent. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé.
Quoi qu'il en soit, son portable indique que le soir de la disparition de Philippe, elle était chez elle. Elle n'a pas bougé. À ce moment-là, les amis de Philippe et de Stéphanie décident d'organiser une sorte de battue. Le dimanche 4 mars. À partir de l'endroit où on a retrouvé la voiture. Ils se partagent la zone par petits groupes et ils fouillent tout le coin. Et vers 15h, on entend un cri déchirant au loin.
Philippe ! Philippe !
Sur un sentier, dans un fossé, l'un des groupes vient de tomber sur une paire de jambes qui dépasse. Un jean avec des Santiago aux pieds. C'est Philippe. Les gens le reconnaissent tout de suite. Et les gendarmes débarquent dès qu'ils sont prévenus. L'endroit où se trouve le corps est très isolé. Il se situe sur la commune de Doisieux. On aurait pu mettre beaucoup plus de temps que ça à le retrouver. Le cadavre présente une plaie au crâne et une ou deux autres dans le dos. Ça ressemble à des coups de feu et ce sera au légiste de le confirmer. Les gendarmes balisent la zone, ils ne retrouvent aucune douille. Ils constatent que Philippe Gletti a sa bague au doigt, son bracelet et sa montre. Des objets de valeur qui n'ont donc pas été volés. Et d'ailleurs dans sa poche, il y a 500 euros en bifton. Donc ça n'est pas un crime de rôdeur, ni un meurtre crapuleux. Le tueur se fichait des bijoux et de son argent. Alors maintenant, avait-il des ennemis, ce Philippe Gletti? 3 balles. Une dans le dos et 2 dans la tête. C'est ce que dit le rapport d'autopsie. Du 8 mm, et ça, c'est pas banal. À part ça, dans le sang de Philippe, pas de traces de drogue, pas de traces d'alcool. Le légiste pense qu'il a été tué le lundi midi, c'est-à-dire juste après sa disparition. Le juge, bien entendu, regarde si le mort n'a pas un passé judiciaire. Des magouilles, des crapuleries, un conflit, quelque chose qui pourrait expliquer qu'on veuille le tuer. Rien. Rien, rien, rien. Aucune malversation dans ses affaires, pas de signe qu'il frayait avec les mafias du bâtiment, et donc pas de piste professionnelle. La juge Corona se replie donc d'entrée sur la piste intime, sur la bite à roulette. Un mari jaloux, une maîtresse outragée, peut-être dans le cadre de l'entreprise, puisque Philippe couchait ou avait couché avec la plupart de ses employés femmes. Ou alors, sa femme, Stéphanie. Comment se sont-ils rencontrés, ces deux-là? C'était sa conseillère bancaire, figurez-vous, celle qui suivait les comptes de sa boîte. Quand ils se sont rencontrés, ils étaient tous les deux en couple. Ils avaient chacun 2 enfants. Et d'après ce que les employés de Princeps Salut racontent, le mari de madame n'a pas apprécié d'être cocu. Il raconte une scène aux gendarmes bien intéressante. C'était il y a environ 5 ans, en 2007. Le mari cocu de Stéphanie débarque chez Princeps Salut, avec un couteau à huître à la main, et il va tout droit dans le bureau du patron.
Vous allez arrêter de coucher avec ma femme ? Vous faites ce que vous voulez avec les autres, mais pas avec la mienne. J'ai trouvé vos échanges de mails vicieux.
Pauvre type, je peux rien, moi, si tu sais pas tenir ta femme.
Les employés racontent que le cocu avait alors attrapé Philippe Cléty par le colbac et lui avait collé le couteau à huître sous la gorge.
Maintenant, tu vas appeler ma femme et tu vas lui dire que c'est fini. D'accord ?
Et Philippe avait dû s'exécuter.
Stéphanie, c'est Philippe. J'en ai plus rien à foutre de toi. C'est fini entre nous.
Là-dessus, la femme de Philippe avait déboulé dans le bureau. Et ça s'était terminé en pugilat. Est-ce que ça n'ouvre pas une piste, ça ? La piste du mari cocu qui se venge 5 ans après. Objectivement, oui. Les gendarmes vont donc interroger l'ancien mari de Stéphanie.
Monsieur Traine, avez-vous gardé une rancœur de cette période contre Monsieur Cléty ? Écoutez, je ne vais pas vous dire que ça a été facile. Hein. Moi, j'aimais ma femme, mais bon, j'ai refait ma vie, voilà. Ça a été un moment d'énervement dans ma vie, avec une arme inoffensive. Ça ne me ressemble pas. C'est du passé.
Et vous savez avec qui il a refait sa vie ? L'ex-mari de Madame Cléty ? Là, je vous préviens, ça devient un vaudeville. Eh bien, avec l'ex-femme de Monsieur Cléty, Emmanuelle. Elle est énorme, celle-là, hein ? Ils se sont échangés leurs femmes. Prends la mienne, je prends la tienne. Les gendarmes perquisitionnent le bureau du mari cocu. Et qu'est-ce qu'ils trouvent ? Une arme. Deux armes. Trois armes.
Vous savez qu'on peut tuer avec ce type d'arme, monsieur Traine. Ben oui, je sais. J'ai été tireur d'élite.
À ce moment-là, la juge et les gendarmes sont de plus en plus persuadés que la vérité se cache dans ce sac de nœuds conjugal. Et ils lancent une série de perquisitions chez toutes les femmes qui gravitaient autour de Philippe. Toutes celles qui ont été, ou qui étaient encore, ses maîtresses. Et notamment son assistante, Bettina Beau. Parce qu'elle aussi, elle couchait avec le patron. Quand les gendarmes débarquent chez elle, ils tombent sur son mari. Était-il au courant ? Oui. Il savait que sa femme couchait avec son patron. Les gendarmes fouillent la maison, le mari est brocanteur. Et il collectionne entre autres les armes anciennes. Il y en a toute une vitrine. Intéressant. Ils examinent les armes. Tiens, il y a un 8 mm, l'arme du crime. Très intéressant. Est-ce que le mari de Bettina, le cocu lui aussi, n'aurait pas tué son rival ? Les gendarmes saisissent les armes, au passage les téléphones et les voitures. Et vous avez compris que le mari cocu de Bettina, l'assistante de direction maîtresse de la victime, devient alors le suspect. Eh bien, les gendarmes se trompent. Ça n'est pas lui qui a tué Philippe Cléty. C'est elle. C'est Bettina Beau. C'est l'assistante de direction. Elle craque dès le lendemain. Elle s'écroule en larmes dans sa cuisine au petit déjeuner. Son mari s'approche, il veut la consoler, elle le regarde intensément dans les yeux et elle lui lâche.
C'est moi. C'est moi qui l'ai tué. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas toi. Je pouvais plus le supporter. J'en avais marre de lui.
Mettez-vous à la place du mari. Sa femme vient de lui avouer qu'elle a tué son patron, au petit déjeuner, dans la cuisine, à l'heure d'amener la petite dernière à l'école. Que faire ? Dans un premier temps, pour préserver la gamine, il va la déposer à l'école. Et puis il revient.
Bettina, on va à la gendarmerie, d'accord ?
Elle est d'accord. Elle s'assoit dans la voiture et il la conduit directement à la gendarmerie de Saint-Paul-en-Jarret. Il y en a pour une demi-heure environ. Pendant tout le trajet, elle ne dit rien. Et elle n'ouvre la bouche que quand la voiture passe le portail de la gendarmerie. Elle se tourne alors vers son mari et elle lui dit.
Philippe,
Je sais que ça va te paraître idiot. Mais je t'aime toujours.
Et ensuite, elle entre dans la gendarmerie et elle se soulage. Elle raconte tout, avec minutie. Comment la veille, elle a volé et chargé l'un des revolvers de collection de son mari. Comment le matin, elle a envoyé des textos à son patron pour l'appâter et lui fixer ce rendez-vous. Il est venu, il est monté dans la voiture avec elle, elle a roulé jusqu'au sentier, ils ont marché un petit moment, elle était derrière lui, il était au téléphone. Quand il a raccroché, elle lui a tiré dans le dos. Elle dit qu'elle a agi machinalement, qu'elle a vidé tout le chargeur alors qu'elle voulait garder la dernière balle pour elle. Qu'il n'y avait donc plus de balles et qu'elle n'a pas pu se suicider. Elle raconte qu'ensuite, elle lui a fait les poches. Elle a pris son portable pour qu'il n'y ait pas de trace du SMS coquin qu'elle lui a envoyé pour l'appâter. Elle lui a pris un peu d'argent. Elle n'a pas vu les 500 euros qu'il avait dans sa poche. Et elle a ramassé les douilles. Puis elle est allée nettoyer sa voiture de fond en comble et elle est allée au boulot. À Princeps Salut, comme si de rien n'était. Le midi, elle déjeune tranquillement avec ses collègues et en rentrant le soir, elle détruit le portable de Philippe à coups de marteau. C'est donc un meurtre prémédité. Autrement dit, c'est un assassinat. Et le mobile, alors? Quel est son mobile? Pourquoi est-ce qu'elle le tue? Pour l'instant, c'est un mélange de mobile passionnel et professionnel.
Notre relation était amical et sexuel en même temps. En général, quand je venais dans son bureau, il me disait « Viens voir derrière ». Et il profitait de cette occasion pour se frotter à moi, quoi. Et tous nos rapports commençaient comme ça.
Quand ils apprennent ça, les employés de chez Princeps Salut n'en reviennent pas. Elle avait l'air effondrée quand elle a appris la mort de Philippe. Elle a même réconforté sa femme et ses enfants. Elle a joué double jeu. C'était une tricheuse. C'était une menteuse. Les gens tombent de l'armoire. Mais là, il faut que je vous dise que la juge Corona ne croit pas complètement son histoire. Elle pense, et entre nous, ça n'est pas dénué de sexisme à l'envers. Elle pense qu'une jeune femme ne peut pas tuer un homme à coups de revolver. Que ça n'est pas un crime de femme. Et donc, elle soupçonne son mari, Philippe Beau, de l'avoir aidé. Et elle le fait placer à son tour en garde à vue.
Où étiez-vous le lundi 27 février entre 11h et midi, monsieur Beau? Oh ben, j'en sais rien. Comment voulez-vous que je vous le dise? Je suis brocanteur, hein. J'ai pas d'horaire. Je peux pas être précis.
Philippe Beau, le mari cocu de la meurtrière, sera sauvé par son portable. Le jour du meurtre, il a reçu un appel à 10h55 et son portable le localise chez lui, au moment où sa femme Bettina tue Philippe Cléty. Et il est relâché, ouf. Parce que mettez-vous à la place de cet homme, qui sera là dans un instant avec moi. Il vient de tomber de l'armoire, il vient de découvrir que sa femme est une meurtrière, qu'elle continuait de coucher avec son patron alors qu'elle lui avait dit que c'était fini et qu'il la croyait. Et en plus, on le soupçonne de l'avoir aidé. Pour boucler la boucle, c'est à lui d'aller chercher la fille de Bettina à l'école et de lui dire
« c'est maman qui a tué Philippe ».
Alors c'est décidé. Philippe quitte sa femme. Philippe divorce. Il n'ira jamais la voir en prison. Et il sera sauvé quand, dans le bureau du juge, sa femme fera la démonstration qu'elle sait bien se servir toute seule, comme une grande, de l'arme du crime. Elle avouera aussi à la juge que depuis des années, elle détournait de l'argent à Princeps Salut. Ça, c'est une constante dans les affaires passionnelles. Derrière la passion, il y a toujours un peu d'argent. Elle a détourné 40 000 euros en 7 ans. Et le lundi où elle a tué Philippe Cléty, il lui avait fixé un rendez-vous pour faire un point financier. C'était ça, les 6 lettres dans son agenda. BEB pour Bettina Beau, PTG pour point général. Devant la cour d'assises, Bettina Beau encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès de Bettina Beau devant la cour d'assises de la Loire à Saint-Étienne s'ouvre le 21 mai 2014. Et on compte beaucoup sur ce procès pour comprendre le vrai mobile de l'assistante de direction. Est-ce que c'est un crime passionnel, une maîtresse qui désingue son patron pour des raisons sentimentales, jalousie, trahison? Ou est-ce qu'il y a d'autres motifs? Parce que ce qu'a révélé l'enquête, c'est qu'il y avait aussi un problème professionnel entre Philippe Cléty et son assistante. Elle se considérait un peu comme le numéro 2 de la boîte, alors que lui pensait qu'elle n'était pas à la hauteur pour ce poste, qu'elle avait atteint ses limites. Il songeait à faire monter quelqu'un d'autre dans la boîte au poste de numéro 2. D'autant que Princeps Salut était dans une mauvaise passe financière. Alors, est-ce que c'est d'avoir été relégué ou d'être sur le point de l'être son vrai mobile? Son mari Philippe est appelé à la barre. C'est la première fois qu'il revoit son ex-épouse depuis le jour où il l'a conduite à la gendarmerie. Il a décidé de ne pas la charger. Il raconte qu'elle s'investissait beaucoup dans l'entreprise, qu'elle était comme fascinée par son patron et que oui, elle vivait mal le fait d'être rétrogradée. Il quitte la barre, il a fini. Et puis, il a oublié quelque chose, alors il revient.
J'ai oublié de vous parler d'une scène qui s'est déroulée entre la mort de M. Gletti et les aveux de ma femme. Elle m'a dit qu'avec nos économies, on pourrait peut-être racheter Princeps Salut, puisque Philippe était mort.
Et là, ça change tout. Ça n'est plus un crime passionnel, c'est un crime crapuleux. Elle l'a tué pour lui piquer sa boîte. En tout cas, lui qui avait décidé de ne pas charger sa femme vient exactement de faire l'inverse. Il l'a enfoncée. Les cours d'assises sont en général plus clémentes avec les meurtres passionnels qu'avec les meurtres d'argent. À la fin, l'avocat général demande 18 ans de prison. Pour Bettina Beau, il aurait pu demander perpète. Pour se défendre, l'accusé a choisi l'un des avocats les plus brillants du barreau de Lyon, David Metaxas, qui plaide la cause d'une femme à bout, assaillie de travail, humiliée par son patron, réduite au statut d'objet sexuel. Et il rappelle que Philippe Cléty a exigé qu'elle lui fasse des fellations dans son atelier quand il était en tension sexuelle. Elle vivait comme un robot et elle a pété les plombs. Elle a vidé mécaniquement le chargeur tout entier alors que Philippe Cléty était mort dès la première balle. Les jurés se retirent, ils reviennent avec un verdict et ils ont choisi de suivre l'avocat général. Ils condamnent Bettina Beau à 18 ans de réclusion criminelle. Elle ne s'en sort pas si mal. Voilà pour ce récit. Et pour débriefer cette histoire, je suis très heureux d'accueillir Philippe Beau. Vous étiez le mari de Bettina Beau, qui s'appelle aujourd'hui Bettina Jauffray. Vous êtes divorcé. Vous ne l'avez jamais revue depuis le jour où vous l'avez accompagnée à la gendarmerie. Et je suis content que vous soyez là pour témoigner de quelque chose dont on parle très rarement dans les affaires criminelles. C'est de cette déflagration qui frappe les proches d'un meurtrier, ou en l'occurrence d'un assassin. Les faits sont encore très récents. Est-ce que je me trompe en parlant de déflagration dans votre vie ?
Non, vous ne vous trompez pas, le mot est parfaitement employé. Quand on connaît quelqu'un depuis 24 ans, comme c'était le cas avec Bettina, jusqu'en 2012 donc, que vous avez une totale confiance, que vous avez une épouse quasiment modèle, même si j'étais informé qu'il y avait eu une relation à une époque avec Philippe Cléty. Pour moi, cette relation était terminée, on avait tourné la page, on n'en parlait plus, voilà. Mais quand elle est passée aux aveux, 10 jours après quand même avoir commis cet acte criminel, pour reprendre votre expression, oui, je suis tombé de l'armoire. Parce que je n'imaginais pas du tout cette femme pouvant mettre en place un plan aussi machiavélique que celui qu'elle a mis en place.
Donc, est-ce que vous étiez posé la question, parce que ça arrive, et le nombre d'émissions criminelles, dont la mienne, sont là pour venir interroger ça, est-ce que ma femme est capable de me tuer ? Est-ce que ça vous était arrivé dans votre vie ?
Non, non.
Est-ce que ma femme est capable de tuer ?
Non, parce que Bettina était quelqu'un de très calme, sereine. Par exemple, moi je suis beaucoup plus sanguin, on va dire. Souvent ça m'était arrivé quand on était en voiture, je conduisais, voilà, il y avait quelqu'un qui me faisait une queue de poisson, je réagissais violemment entre guillemets par la parole.
Donc l'interrogation et, voilà. Venait pour vous plus que pour
tout
elle.
Tout à fait. Elle me calmait justement en me disant mais non, c'est rien, laisse tomber. Donc non, venant d'elle, c'était pas du tout envisageable.
Le jour de ses aveux, vous décidez que vous ne la reverrez jamais ?
Oui. C'est pas tout à fait ce jour-là. C'est-à-dire que le jour de ses aveux, je suis complètement perdu. Je m'attends pas du tout à ça. Donc j'essaye de protéger notre fille dans un premier temps. Ça, c'est le premier réflexe. De la protéger, elle aussi, Bettina, en la conduisant donc à la gendarmerie. Et puis, arrivé à cette gendarmerie, j'y vais aussi pour me protéger moi, en me disant voilà, maintenant, on est en sécurité. Ma fille va être prise en charge par ses grands-parents maternels. Voilà. C'est au fur et à mesure que l'enquête va évoluer que je vais être informé d'un certain nombre de choses. Donc, par exemple, le détournement d'argent. La juge Corona va me dire dans son bureau, vous savez que votre femme, en plus de vous, a beaucoup d'autres hommes dans sa vie. Enfin voilà, je vais apprendre un certain nombre de choses pendant les premiers mois de l'enquête. Et à un moment donné, je vais être obligé de trancher. Donc, à partir de ça, je ne peux plus pardonner, lui faire confiance, et j'ai pas du tout l'envie de la rencontrer.
Donc, vous ne l'avez jamais revue à ce jour ?
Non, je l'ai eu au procès. Je l'ai eu au téléphone au début de son incarcération, donc avant que je prenne cette fameuse décision de couper les ponts.
Vous avez échangé des lettres aussi.
On a échangé des lettres. Elle m'a fait quelques révélations par téléphone qui m'ont sidéré, du genre j'avais un problème, j'ai réglé le problème. Bon, ben oui, ça fait quand même froid dans le dos quand on entend ce genre de réflexion. Et puis après, oui, je la revois au moment du procès, où je lui reproche, comme d'autres d'ailleurs, de ne pas avoir levé les yeux pour regarder les gens qui étaient à la barre, hein, que ce soit moi, que ce soit son père qui va témoigner, que ce soit notre fille ou
pendant que vous témoignez, elle ne vous regarde
non,
pas.
Non,
ça vous dire... la regardez pendant le procès.
Bien sûr, j'attends qu'elle lève la tête, j'attends de croiser son regard lors d'explications très précises sur notre vie. Je me dis tiens, elle va lever la tête, non jamais. Je suis resté 2 heures à la barre, 2 heures, c'est long. Hein.
Elle ne vous regarde pas.
Et elle me regarde pas.
Le dernier mot qu'elle vous dit avant d'entrer dans cette gendarmerie où elle va avouer cet assassinat, c'est « je t'aime ».
C'est vrai.
Est-ce qu'elle était sincère ?
Je pense. Je pense que elle avait ce problème de à la fois, bien sûr, de m'aimer, mais à la fois d'être tellement mal dans cette société, mal parce que elle voulait beaucoup plus, elle voulait que cette entreprise lui appartienne, presque. Et voilà, elle était vraiment prise entre deux feux, à la fois sa vie privée et sa vie professionnelle.
Dans une émission qui s'appelle Les yeux d'Olivier, vous avez témoigné.
Oui.
Et il y a un de vos copains qui a témoigné.
Oui, Marcel.
Et il a dit, Marcel, que vous-même, sans doute, l'aimiez-vous aussi, encore.
Bien sûr, on peut pas rayer comme ça du jour au lendemain 24 années de vie commune et 24 ans de souvenirs.
Mais c'est votre cerveau qui vous dit, mais c'est plus possible.
Voilà, c'est un petit peu comme si j'avais un petit ange et un petit diable, vous voyez, autour de moi. Donc le petit ange me dit, tu l'aimes encore, et le petit diable me dit, oui, mais souviens-toi de ce qu'elle t'a fait. C'est un peu comme dans la chanson de Brel, vous savez, sur Mathilde est revenue, souviens-toi quand tu pleurais dans tes mains, bon, ben, c'est ça, voilà. Donc aujourd'hui, je ne peux pas pardonner, c'est pas possible pour moi. Elle l'aurait tué de manière, je dirais, sur une pulsion, dans une bagarre, accidentellement. Ça serait totalement différent. Là, elle met au point vraiment un plan, j'ai employé le mot de machiavélique, mais je crois que c'est le mot qui convient, où elle va vraiment entraîner cet homme à la mort, mais vraiment de façon terrible, quoi. C'est pas une dispute qui éclate dans le bureau. Et ensuite, elle va rester surtout 10 jours sans rien dire, en vivant au quotidien, à son entreprise, à la maison, comme si de rien n'était. C'est fou. Et ça, pour moi, c'est impardonnable. Et je peux même le dire ici, même du côté de ses parents, c'est le point qui les dérange le plus. Notre fille aussi,
elle a revu sa mère, elle l'a revu en prison.
Sa mère, oui, parce que c'est sa mère. Donc c'est totalement normal qu'elle ait encore des contacts, qu'elle ait au téléphone, qu'elle aille la visiter. Par contre, elle ne cautionne pas du tout la manière dont elle a agi. Ça, c'est une évidence.
À un moment de cette enquête, comme souvent d'ailleurs. Vous êtes soupçonné, d'abord vous-même, puisqu'au fond cette arme est à vous,
oui,
et que lors de la perquisition, quand on trouve cette arme, la première chose qu'on dit, c'est l'arme de Philippe.
Bien sûr.
Et ensuite, vous êtes soupçonné d'être son complice, parce que la juge applique un raisonnement qui est, moi, que je trouve éminemment sexiste à l'envers. Il considère qu'une femme ne peut pas tuer un homme avec un revolver.
C'est ça.
Et que donc quelqu'un l'a forcément aidé à manipuler l'arme. Elle vous le dit telle quelle?
Elle me le dit tel quel, brutalement, dans le bureau de la gendarmerie, l'après-midi de mon premier jour de garde à vue, puisque je suis resté 48 heures en garde à vue quand même. Elle me dit ni bonjour, ni rien d'autre. Elle s'adresse à moi froidement, me disant « Monsieur Beau, je ne sais pas ce que vous avez raconté hier à votre épouse, mais de toute façon, ce crime n'est pas féminin. » Alors, bon, déjà, moi, je suis sous le choc depuis le matin par rapport à ce qui est arrivé, mais là, c'est une deuxième douche froide, parce que je sens très bien que, voilà, je deviens rapidement le mari jaloux qui a tué l'amant de sa femme, quoi. En gros, c'est ça. Donc, j'ai beau m'expliquer, j'ai beau essayer de trouver des moyens en disant, par exemple, mais attendez, ma femme a avoué, donc pourquoi vous me soupçonnez? Bon, voilà, tout part comme ça. Et en effet, après, bon, je suis plus vraiment le criminel, mais je suis le complice.
C'est-à-dire, vous pensez que cette juge, dans un coin de sa tête, si j'allais la voir aujourd'hui, elle me dirait « Philippe Beau, c'est pas sûr que... »
Il y a de grandes chances.
Ouais. Est-ce que vous avez changé de regard sur l'humanité depuis, Philippe Beau? Est-ce que vous étiez naïf?
Alors, on l'est forcément tant qu'on n'est pas passé devant ce genre d'affaires. Changer le regard sur l'humanité, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai que, j'ai peut-être aujourd'hui une autre philosophie de vie. Je profite certainement de choses simples. Je ne vais pas dire que je vis au jour le jour, mais quasi.
Est-ce que vous êtes moins confiant avec les autres?
Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Aujourd'hui, c'est impossible pour moi, encore à l'heure actuelle, de reprendre une vie de couple. Parce que, voilà, oui, en effet, j'aurais du mal à faire confiance. Comme j'ai fait confiance à Bettina, à tort, apparemment.
Est-ce que c'est la même chose pour votre fille? Parce qu'elle, elle s'est construite, adolescente, sur cette histoire-là. Est-ce qu'elle arrive à aimer?
Oui, Dieu merci, elle était en couple avec un jeune homme rapidement après l'affaire, à partir de 2013-2014. Elle s'est aussi énormément investie dans son travail. Donc, apparemment, c'est ce qui l'a sorti, et ce garçon, et son travail. Mais il y a certainement des choses dans son subconscient qui sont là, qu'elle va emmener avec elle toute sa vie, quoi. Sa mère lui a mis sur les épaules un lourd fardeau.
Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes jamais allé la voir en prison,
oui,
que vous avez cessé de correspondre avec elle, vous,
oui,
n'avez donc plus de contact avec elle.
Tout à fait.
Mais je sais que vous l'avez revue il n'y a pas longtemps à la télévision. Vrai ou pas, et racontez-nous dans quelles circonstances.
Oui, en effet, j'ai été informé qu'il y avait une émission sur la prison de Rennes.
Où elle est détenue, c'est le grand centre de détention pour femmes en France, il n'y en a pas beaucoup.
Et deux ou trois détenus acceptaient donc de parler et puis d'être surtout filmés à visage découvert, non flouté.
Dont Bettina.
Donc j'ai regardé, bien sûr, avec attention, c'est un petit peu normal. J'ai eu franchement beaucoup de peine parce que je ne l'ai pas reconnue. Quand je dis je l'ai pas reconnue, j'ai bien vu que c'était elle, mais c'était plus ma Bettina, c'était une femme
abîmée,
meurtrie, mal dans sa peau, avec des tocs, avec une façon de s'exprimer qui était pas la sienne. Enfin, on voit qu'elle souffre. Elle souffre.
Ça se voit.
Bien sûr.
Combien de temps est-ce qu'il vous faudra pour accepter l'idée qu'on peut aimer quelqu'un qui a commis un tel crime? Est-ce que c'est possible que ça vienne un jour?
Ma réponse aujourd'hui, c'est non, je ne peux pas lui pardonner. Peut-être qu'on se reverra dans 10 ans et peut-être que ma réponse sera différente, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je vous dis non, c'est pas possible pour moi.
Je vous remercie beaucoup, Philippe.
Je vous en prie, merci.
D'avoir partagé ça avec nous, parce que c'est extrêmement rare, parce que c'est passionnant, parce que ça nous permet d'entrer dans un à côté du crime que l'on raconte rarement.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.